Et oui, de retour, chers auditeurs, dans cette édition de Localement Plus, et nous sommes en très bonne compagnie, puisque je suis toujours avec Hélène, et trois messieurs nous ont rejoints pour cette émission, et d'ailleurs, je vais leur laisser le plaisir de se présenter. Bonjour à vous, messieurs.
Oui, bonjour, c'est Laurent Cartoni, je suis radiomateur sur Meurchat, sous l'indicatif Foxtrot 4 Alpha Hotel November.
Bonjour, je suis Philippe Théry, donc je suis SWL, donc côté écouteur, et en cours de passage de licence pour être radioamateur, j'habite Vingles.
Bonjour, je suis monsieur Yves Guy, je suis radioamateur, mon indicatif c'est Foxtrot 4 Hôtel Lima X-Ray, j'habite Vingles.
Bon, voilà, vous avez conscience, messieurs, que pour des amateurs, hein, pour le coup, nous ne maîtrisons absolument pas ça, même plutôt des néophytes. Pourquoi des noms aussi complexes? Expliquez-nous un peu ce qu'est le radioamateurisme un petit peu en détail, parce que voilà, c'est vrai que ça peut paraître un petit
D'accord.
peu...
D'accord. Donc un radioamateur, c'est une personne qui passe un examen de théorie et de pratique. On doit avoir une moyenne de 10. On passe un examen au Portel, au centre de radiocommunication du Portel. Et dès si on a l'examen, si on a la moyenne de 10, on peut utiliser des fréquences radioamateurs, un peu comme les bandes FM, sauf que ce sera des fréquences qui sont destinées aux radioamateurs. Suivant l'examen, on nous donne un indicatif à vie, qui est de mon côté Foxtrot 4 Alpha Hotel November. Et chaque radioamateur a un indicatif comme une plaque d'immatriculation de véhicule.
D'accord, donc on n'en change jamais, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est à vie.
Non, enfin c'est à vie tant qu'on paie sa licence de radiocommunication. Après, au bout de 5 ans, on perd l'indicatif.
D'accord, et donc c'est une licence qui est... Donc on doit
c'est un examen payer. Théorique, donc il y a électronique, électrotechnique, des groupements d'antennes. Après, bien sûr, il y a de tout ce qui est réglementation, la largeur des fréquences, le matériel, ce qu'on peut faire en puissance, ainsi de suite. Quoi. Donc c'est quelque chose de très très cadré au niveau de l'administration.
Et donc ça prend combien de temps alors pour passer cette licence en termes de...
Ça dépend des capacités de chacun, je veux dire, il y en a, au bout de 6 mois ils vont l'avoir, il y en a, il faut attendre 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que c'est comme le permis de conduire, hein, c'est une histoire de QCM, et ensuite c'est au bon vouloir de la personne qui s'investit à apprendre et à s'investir sur le sujet. Quoi.
D'accord, donc vous pratiquez ça depuis combien de temps alors, messieurs?
Alors moi j'ai passé mes licences en 1996 dans un radioclub qui n'existe plus à Solesmes, dans le Nord, et puis donc après Guy, je sais pas en quelle année.
Moi il y a 3 ans que je suis radioamateur. Hein.
Un radioclub de Arnes, c'est ça.
J'ai passé ma licence assez tard, donc j'ai mis un peu plus de temps.
D'accord.
Mais je l'ai obtenu, c'est faisable.
D'accord.
Et Philippe?
Et moi, je suis en cours donc de passer ma licence. Donc, je suis en train d'apprendre la partie technique, théorique, et puis la partie législation.
D'accord. Et donc, quel type de dialecte parle-t-on donc en étant radioamateur? Parce que bon, vous avez des mots un peu compliqués.
C'est réglementé. On va pas parler de la foire à la saucisse, par exemple.
Non, je me doute bien.
On va parler de tout ce qui est technique, hein, météo, transmission, avec quel matériel on utilise, la puissance, le type de poste, le micro,
les antennes,
tout à fait, quoi. Donc c'est vraiment très plus ou moins technique et donc c'est quand même assez réglementé, quoi.
Et le langage, donc c'est un nom,
c'est... Ouais, c'est des codes. Alors il y a des codes qui sont très QRX, qui veut dire en attente, QRZ, quel est votre indicatif. Donc c'est des choses qui sont abrégées lorsqu'on effectue des contacts en très très longue distance, hein, comme par exemple la Guadeloupe, la Martinique. La propagation peut chuter très rapidement, donc on essaie d'aller vite pour finaliser le contact. Et après on vous expliquera qu'il y a des échanges de cartes QSL, des cartes postales pour confirmer le contact aussi.
D'accord, donc en termes de distance, on peut faire un échange sur...
On peut faire le bout du monde suivant la propagation des ondes, les couches atmosphériques, comment l'onde se propage dans la couche et atterrit, on ne sait pas où. Hein. Quand on appelle, on ne sait pas où on va atterrir et qui va nous répondre. C'est toujours la curiosité.
Du coup, vous faites des rencontres, alors c'est ça qui est génial. Alors,
on peut contacter le bout du monde. Hein. Bon, et après, il y a des contacts qui peuvent se faire tous les jours à telle heure. Il y a des contacts sur l'Europe, on peut facilement se contacter tous les jours. Il n'y a pas de souci.
Donc, ce qui fait que c'est une communication universelle, vous n'avez pas de difficulté à communiquer avec des gens.
Après, il y a la maîtrise de l'anglais, parce que pratiquement la langue internationale c'est l'anglais, donc lorsqu'un radioamateur ne pratique pas la langue française, on utilise la langue anglaise, donc,
d'accord, on se base sur l'anglais,
voilà, on
base
sur l'anglais général, c'est la langue internationale, quoi.
D'accord, donc voilà, c'est déjà un bon résumé, je pense, de ce qu'est le radioamateurisme. Donc et oui, voilà, nous sommes de retour à l'antenne avec nos invités, on va reparler un petit peu de ce radioamateurisme. Et donc alors on peut se parler pendant la pause, justement, est-ce que ces fréquences attribuées, qui peut y circuler? Et vous m'avez dit qu'il y avait une question de pirate, alors parlez-moi un petit peu.
Alors, pirate, on va dire, c'est peut-être un mot dur, mais c'est pas le pirate comme on peut l'entendre régulièrement à la télé. On va dire pirate, ce sont en fait des gens, des passionnés de radio, puisque de toute façon, pour aller émettre sur des fréquences telles que le 140 MHz, tout ça, il faut avoir déjà une passion, avoir du matériel, parce que bon, le matériel est quand même coûteux, avoir une bonne antenne, tout ça. Mais en général, c'est des gens passionnés pour faire des dialogues, pour faire des rencontres techniques, parce que la base du radioamateurisme, c'est quand même des dialogues de techniques, d'amélioration, de performance d'émissions, de retour au fil. On aime bien savoir comment mon signal passe, jusqu'où on peut aller. Et en fait, c'est déjà des passionnés à la base de technologie et on va dire d'électronique. En fait, la base du radio amateur, ça remonte à des années, et c'est à la base, c'était vraiment des réparateurs de télévision, des gens comme ça. Donc c'était tous des passionnés qui créaient à l'époque, puisqu'à l'époque l'obligation était de créer son émetteur pour avoir une belle maîtrise en fait du monde de la radio.
Ouais, donc c'est vrai que c'est quand même des compétences assez techniques hein, pour pratiquer le radioamateurisme. Et d'ailleurs, comment êtes-vous à le pratiquer? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfin, quelles circonstances ont fait que vous êtes intéressé à cette pratique qui est quand même assez originale et assez particulière tout de même?
Moi, je prends mon cas. Quand j'ai été mis à la retraite, disons, je voulais faire quelque chose. J'avais déjà la CB dans le camion et j'ai voulu continuer à écouter, mais à écouter encore plus et encore plus et encore plus. Donc, j'ai trouvé un poste avec la gamme de fréquences des radioamateurs. J'ai écouté et ça va pas, j'en veux encore plus. C'est là que je me suis rapproché d'un club pour passer ma licence et l'obtenir, quoi. Voilà. Maintenant, je peux aller sur toutes les fréquences qui sont allouées aux radioamateurs, sans d'accord. problème, dans toute l'égalité, on va dire.
D'accord. Et vous, Laurent, du coup?
Moi, c'est pareil, je viens de la CB aussi. Et donc, j'ai franchi le pas, parce que bon, la CB, c'était bien, mais bon, la bande des 27 mégas n'était pas toujours ouverte à longueur d'année. Et donc après, je me suis dit, c'est vrai qu'on peut quand même contacter les États-Unis sur certaines plages de fréquences, c'est toujours intéressant de contacter le bout du monde. Moi, ça m'a toujours passionné. Donc vous avez différents modes de trafic, vous avez du satellite, vous avez de la télévision d'amateur, vous avez maintenant les nouvelles normes DMR, donc de la radio numérique aussi. Enfin, il y a plein de choses aussi, quoi.
Ouais, non, je me doute. Ça vous permet un petit peu de vous ouvrir un peu au monde, quoi, au final, la pratique du radioamateurisme.
Ouais, tout à fait.
D'accord. Donc, en parlant de s'ouvrir au monde, on va pouvoir aborder aussi un petit peu le sujet dont vous venez nous parler aujourd'hui. Vous avez réussi à être en contact avec carrément l'espace, hein, pour ainsi dire.
Nous, on n'était pas en contact. Donc, lorsque Thomas Pesquet est à bord de la station spatiale ISS, il y a encore un peu plus d'un an, puisqu'il est atterri le 2 juin sur la Terre. Donc, on avait fait, à destination des scolaires, une réception de Thomas Pesquet. On avait fait une réception je crois que c'était le 3 mars. À l'école de Merchin, à la médiathèque de l'archipel de Merchin, et on avait fait une deuxième tentative. Donc Radio Plus était présente au collège de Vingles, parce que il me semble que vous êtes partenaire avec Radio le collège Léon Blum,
oui.
Sur l'antenne.
C'est vrai.
Donc il y avait un journaliste qui était venu. Sur Vingles, ça s'était très bien passé. On n'avait pas entendu du tout Thomas Pesquet, mais bon, on a déroulé notre programme. On avait fait une découverte de la station ISS. Il y avait le club d'astronomie de Courrières qui était intervenu pour la présentation de la station internationale l'ISS, et puis un peu de tout ce qui est astronomie en général. Donc on avait déroulé notre programme, on n'a pas entendu Thomas Pesquet, tant pis sur Vingles. Bon, on l'avait reçu sur Merchin. Donc là, on se finit le projet Thomas Pesquet avec les scolaires de Merchin. On fait une exposition à la médiathèque qui a été ouverte aujourd'hui du 10 au 21 avril, et donc là vous aurez les photos de Thomas Pesquet, son odyssée spatiale, des vidéos. On aura aussi la partie radioamateur, des postes de transmission qui seront exposés dans des vitrines. On avait demandé aussi un indicatif spécial pour commémorer la présence de Thomas Pesquet, parce qu'avec l'administration, on a droit de demander un indicatif qui est valable pendant 6 mois, mais sur une période de 15 jours d'activation. Et donc, on avait contacté le monde entier avec cet indicatif. Donc, vous pourrez retrouver les cartes QSL qui sont exposées. Donc, il y a 80 pays, les 5 continents. Et plein d'autres choses. Nous, on sera là le 14 et le 21 avril pour exposer et puis leur montrer un peu ce qu'est un radioamateur, et en même temps faire découvrir l'espace, hein, la station ISS et Thomas Pesquet, quoi.
Et donc, alors, comment vous est venue cette idée de projet de rentrer en contact avec Thomas Pesquet? Alors, comment ça vous est venu ce petit projet?
On est toujours pas, petit. Nous, de côté, on n'est pas rentré en contact.
Non, je sais, mais
je préfère signaler, parce que c'est pas pareil.
Autant pour moi.
Il y a 15 contacts qui ont été faits pendant le 6 mois de la présence de Thomas Pesquet avec une vingtaine d'écoles. Donc nous, on avait fait une réception avec c'était le club F6 KFA de Rue Almalmaison qui est rentré en contact avec Thomas Pesquet. Donc c'est l'association Harris France qui gère les contacts avec la NASA et Baïkonour, ainsi de suite, qui prennent des dates de rendez-vous suivant le passage de la station ISS, parce qu'ils passent pas toujours au-dessus de la France. Il y a des courbes cycliques. Et donc nous, on a fait juste une réception. On entendait Thomas Pesquet en direct, on n'entendait pas le Radio Club de Paris puisqu'il était trop loin. Et donc c'était la responsable Gaëlle Thomas qui posait les questions dans des conditions directes, sachant que la réception se faisait dans des conditions directes. Donc on a commencé à recevoir Thomas Pesquet à partir du nord de l'Angleterre. Il a le temps de poser sur ses 10 minutes de passage. Il a posé ses 20 questions et on a perdu le contact au niveau de l'Ukraine, quoi. Donc on avait installé du matériel radioamateur qui est un peu plus sensible que du matériel TQLQ ou autre. Et on demandait la nacelle télescopique de la mairie de Meurchard qui était à 16 mètres. Et on avait à installer des antennes de réception un peu plus adaptées pour la réception de Thomas Pesquet, quoi. C'était sur des fréquences dédiées à la NASA. C'est les fréquences radioamateurs qui sont dédiées quand même pour la station ISS, hein. Parce qu'on a toujours le privilège de pouvoir contacter la station ISS. Dans le début de l'ère spatiale, la NASA et la Russie communiquaient avec des moyens radioamateurs en cas de secours. Donc il y avait toujours des animateurs qui pouvaient rentrer en contact avec la station Mir à l'époque, et on a toujours gardé ce privilège. Maintenant qu'ils sont dédiés aux scolaires, on met notre moyen technique pour les scolaires et que les enfants posent leurs questions à Thomas Pesquet, quoi.
D'accord. Donc c'est quand même une sacrée logistique à mettre en place pour ce genre
de communication. Ouais, il y a toute une organisation, hein. Mais bon, nous on avait mis des moyens basiques, mais c'est vrai que les radioclubs qui font contact avec la station spatiale, on leur demande beaucoup de choses, des doubles stations de réception en cas de secours et du matériel de tracking, hein, parce que là les antennes suivent en temps réel la station ISS pour optimiser la qualité de réception. Il y a aussi un effet Doppler. Bon, là c'est un peu plus technique.
Ouais,
il y a un effet Doppler qui se fait aussi avec le passage de la station ISS. Il faut rattraper c'est toujours la même fréquence, mais sur la station fixe, à elle de décaler ses fréquences suivant ses heures de passage, enfin son passage.
D'accord. Et donc en fait, on pouvait le recevoir et il émettait en fonction de sa localisation sur l'espace.
Lui, il avait l'horaire de la présence sur telle fréquence, hein, que je ne donnerai pas. Enfin, qu'il se trouve facilement sur Internet. Et donc on avait l'heure de passage, le créneau 10 minutes et on devait se caler à telle heure et ainsi de suite, quoi.
Ah ouais, j'ai vu que c'était très précis par les informations que vous m'avez transmises, c'était 04 et heure.
Oui, c'est à la seconde près, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un problème technique, difficile de faire machine arrière, quoi. Difficile de rattraper le coup, quoi.
Ah, c'est quelque chose de très pointilleux, quoi, comme pratique, en tout cas. Mais revenons du côté de nos invités, et là on va parler un petit peu du Morse. On a eu l'occasion de discuter un tout petit peu avant. Et alors, quelle est la particularité de ce langage? Est-ce que vous le pratiquez? Ils cherchent à se donner la parole.
Ah ouais, tout à fait. Ouais. Alors, en fait, dans le métier de radioamateurisme, on a deux façons de communiquer. Donc, on peut communiquer par la parole, mais aussi on peut communiquer via le Morse. Donc, on envoie envoie des sons. Donc, l'intérêt de ça, c'est que en fait, le son va porter bien plus loin que la parole.
D'accord.
Donc ça permet de faire des contacts de très 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 longue distance, et ça permet aussi de faire des dialogues très courts, en fait. Donc on a plus de chances de faire des contacts, de contacter des gens très très loin avec le Morse, donc le CW.
C'est ce qui avait aidé lors du tsunami en 2008, il me semble.
Ouais, tout à fait, ça reste un moyen basique de communication, puisque pour faire du Morse, créer un émetteur, c'est très très basique. Et donc c'est vraiment un moyen très facile de communiquer quand il arrive des catastrophes de ce style.
D'accord,
et donc le Morse, comment ça s'apprend au final? Est-ce qu'il y a des écoles ou il y a une licence particulière? Tout le monde peut parler Morse? Comment ça marche?
Non, tout le monde peut l'apprendre. C'est une série de points de tirés qui forment des lettres. Donc avec ces lettres on forme des mots et puis ainsi de suite, quoi.
D'accord.
Je dirais que c'est une symphonie.
Une symphonie, voilà.
C'est une musique.
D'accord, c'est une musique à sa façon.
C'est une musique qu'il faut effectivement détecter, mais aussi décoder.
Et donc, alors, qui pratique d'autres le Morse? Parce que je suppose qu'il n'y a pas uniquement le radioamateurisme, les militaires, par exemple, peut-être?
Moi, je pense que les militaires ont encore une formation basique, mais ils peuvent encore l'utiliser en cas de conflit ou en cas de problème technique. Hein. C'est un moyen qui est vite mis en place dans des conflits ou le jour qu'il y a vraiment une bombe, on appelle ça une bombe H, qui détruit tout ce qui est transistorisé. Je pense que ça sera la première transmission, ça sera encore le Morse. Hein. Ça fait ses preuves, même du temps du Titanic. Hein. C'était les premières transmissions radio. Ça a sauvé des personnes. Et après, il y a une autre cellule. Bah, Philippe, peut-être parler de la DRASEC, de la sécurité civile.
Alors, oui, la DRASEC, en fait, c'est une cellule qui va épauler tout ce qui est moyens gouvernementaux. Lorsqu'il y a des grosses catastrophes, par exemple, catastrophe Céveso, un crash d'avion, Donc on va faire appel à des personnes qui se mettent à disposition de l'État, en fait. Donc c'est des gens qui sont volontaires, généralement, qui en plus veulent s'investir côté humain, mais qui sont aussi ont des compétences dans le radioamateurisme. Donc c'est des gens qui vont signaler, ils vont faire partie d'une association, la DRASEC, et donc ces gens-là seront appelés pour des gros problèmes de sécurité civile. Alors leur rôle, ça sera de relayer des messages radio, d'aider tout ce qui est force de l'ordre, mais en aucun cas prendre leur travail. C'est ça, vraiment, leur vocation, c'est vraiment de d'épauler.
Et rechercher les balises. Éventuellement,
alors, effectivement, l'Indrasec, c'est un organisme qui aide aussi lorsqu'il y a des crashs d'avions. Donc, dans chaque avion, vous avez des balises de détresse. Et on peut parfois faire appel à des radioamateurs pour aider à localiser le plus rapidement possible des balises pour avoir des secours le plus rapidement sur le terrain.
D'accord. Et donc, alors, le radioamateurisme, pardon, dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça peut devenir une profession? Est-ce que ça peut être un métier? Ou alors, c'est juste c'est de la passion et c'est...
Alors, moi, je dirais c'est une passion. Parce qu'en fait, le métier, c'est un petit peu comme un arbitre, quoi. C'est une passion. Généralement, ils ont un métier à côté. Le radioamateurisme, c'est vraiment une passion. On ne cherche pas à y vivre. On cherche surtout à partager. Partager, découvrir...
D'accord.
Aider,
communiquer, voilà, sur cet aspect, fait, d'accord. Et les dérivés, donc, alors, parce que c'est pas uniquement à la radio que ça s'adresse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait aussi un peu de la télévision, etc. Est-ce qu'on peut en aborder le sujet un petit peu?
Alors, pour la télévision, moi, je suis pas spécialiste, hein, y a des gens qui, c'est parce que chaque domaine est vraiment spécialisé. Donc, il y a les télévisions d'amateurs, il y a des gens qui s'envoient des images, des vidéos, la station ISS, aussi, il y a des contacts qui sont faits en vidéo, à la place, parce que la NASA ou le Cosmodrome utilise des satellites géostationnaires, ils basculent d'un satellite à un autre suivant la position de la station ISS, tandis que nous, on peut recevoir des images de la station spatiale avec une petite webcam, sur des fréquences radioamateurs. Donc on peut voir l'astronaute. Il y a eu deux ou trois contacts avec Thomas Pesquet qui ont été faits avec la vidéo et le son.
Voilà. D'accord, ouais, donc il y a plusieurs possibilités.
Il y a tout plein de possibilités, hein. Il y a des images aussi, envoyer des images, enfin bref, après on fait des échanges de cartes USL, donc ça c'est des cartes postales qui sont envoyées entre nous, et qu'est-ce qu'il y a d'autre après, Philippe?
Alors après, il y a aussi, comme on discutait tout à l'heure, c'est le monde de radio amateur, donc on part sur de la transmission radio dans l'air. Maintenant, le monde moderne veut développer de plus en plus le monde numérique, donc maintenant, on arrive sur des communications dites par relais, donc c'est-à-dire que les personnes commencent à émettre un signal de chez eux vers une borne relais, et cette borne relais, en fait, on part vers un réseau Internet, et on ressort à des milliers de kilomètres sur un autre relais, et on refait ce parcours inverse du relais jusqu'à une autre personne. Et maintenant, les communications deviennent, on va dire, de plus en plus faciles, puisque... le gros problème du radioamateurisme, on va dire, de communication de base par les ondes radio, est ce qu'on appelle la propagation. Donc si on n'a pas de propagation, malheureusement, on n'a pas de communication longue distance. Donc on est tributaire du temps, des éruptions solaires, et là, actuellement, on est dans ce qu'on appelle un creux de propagation, donc on a des difficultés à faire des longues distances, et est venu tout doucement se mettre en place des systèmes de communication dits modernes par relais.
C'est un petit peu comme un voilier, quoi. Au final, s'il n'y a pas de vent, ouais. On peut faire ce qu'on veut, on n'avancera pas.
Exactement.
Alors, il y a même des expéditions. On appelle ça, c'est des radioamateurs qui partent avec, généralement sur des bateaux, des navires, avec des containers. Et ils s'installent sur des îles qui sont inhabitées. Et ils activent un indicatif spécial. Actuellement, il y a un radio club français, hein, qui est sur Paris, qui active l'île de Bouvet, je crois.
Ouais.
Hein, c'est où, ouais, je crois, c'est où Brandon, l'île de Brandon, au sud de l'Afrique. Donc, c'est désert. Et il y a une vingtaine d'opérateurs qui activent non-stop sur toutes les fréquences radioamateurs. Bien sûr, il y a pas mal de radioamateurs qui sont intéressés de faire contact sur cette île. qui n'avaient pas du tout habité, quoi.
D'accord. Et donc alors, comme vous pratiquez ça depuis quand même quelques temps, et que, est-ce que vous avez relié des contacts avec des gens qui habitent très loin et qui vous restez en communication régulièrement, des amis un petit peu juste grâce à radioamateurisme?
Disons que moi je suis pas trop actif, on va dire. Je suis radioamateur mais pas trop actif. Je fais plutôt la promotion. On aime bien plutôt faire la promotion auprès des jeunes, si ça peut ramener un peu de sang frais, parce que c'est vrai qu'on diminue vraiment. Hein. On est passé actuellement en France à 12 500 radioamateurs. C'est peu. Donc si on peut faire connaître notre passion en passant chez vous, par exemple, voilà, ça
vous
permet
êtes,
de.
Vous êtes les bienvenus.
Oui, ça permet d'ouvrir un peu d'autres horizons. Et si on peut promouvoir un peu avec les scolaires, il suffit que dans 2-3 ans, moi je me rappelle que j'ai fait quelque chose avec des radioamateurs. Ils vont dans des radioclubs. Hein, le plus proche ici, ça doit être Arnes. Mmh. Ils s'inscrivent sur le radioclub. Il y a des gens qui sont là pour les former. C'est beaucoup plus simple d'être formé par d'autres radioamateurs que rester chez soi et se former sur Internet. Hein, c'est moins agréable. Et voilà, si on peut booster un peu la partie radioamateur, c'est l'occasion. Hein, parce que là, on chute à vitesse grand V. Quoi, hein, la moyenne d'âge, je dirais, c'est 60 ans. Quoi.
Un peu moins,
mais bon, on est quand même pas loin des retraités. Quoi.
Non, c'est sûr. Mais bon, après, c'est vrai que les moyens aussi évoluent. Hein, donc, c'est quand même quelque chose qui est amené à perdurer, je suppose. Je suppose que c'est pas amené à disparaître, dû au nombre de personnes qui réduit malheureusement, mais donc effectivement ça pourrait peut-être intéresser un peu de gens de vous écouter aujourd'hui. Mais bon, du coup on revient du côté de nos invités et qui voulaient nous dire quelques petites choses. On vous écoute.
Oui, ben écoutez, pour conclure, je voudrais rappeler quand même que donc le monde de radioamateurise est régi sous l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences. Donc si les gens sont intéressés, ils peuvent aussi se retourner côté internet et puis regarder sur le site. Vous avez aussi donc le club de Arnes, où on peut donc joindre le président ou un indicatif F8KHW. Vous avez aussi un club que j'ai rencontré lors d'un salon qui sont des passionnés, et un club qui bouge aussi, qui est présidé par F5ING. Bernard, voilà. Et j'aimerais aussi rappeler donc l'exposition à Meurchin au niveau de la bibliothèque Archipel du 10 au 21. Nous sortons aujourd'hui donc d'une journée pédagogique où on a essayé de faire découvrir le monde du radioamateurisme à des enfants, donc de CM2. Donc on a fait deux classes, on a fait des petits groupes, on a fait des petits ateliers, des ateliers donc CW, donc de Morse, où on leur a fait connaître un peu comment se manipuler donc la façon de faire un message en Morse. Donc ils ont appris. On a fait aussi une découverte sur le fonctionnement, comment un micro transformait la voix en électricité, pour leur faire voir un peu le principe de l'émission. Nous avons fait un atelier sur les QSL, donc différentes QSL. Donc les QSL, c'est des cartes postales. C'est un peu les trophées des communications. À chaque communication, on est content d'avoir la QSL. Puis on se dit, youpi, voilà, c'est une preuve, j'ai pu contacter. D'accord. Puis quelque part, il y a des très très belles QSL, aussi rares qu'aussi belles.
D'accord.
Et donc, voilà, on a fait un petit jeu pédagogique qui s'est très bien passé. Petit atelier aussi sur après la manipulation donc du Morse, du déchiffrage. C'est-à-dire qu'on envoyait un petit son de Morse et puis voilà, on essayait de faire découvrir aux enfants
l'alphabet.
Voilà. Donc le ressenti aujourd'hui, notre ressenti est, pour l'instant est très très positif, puisque les enfants ont adhéré à tous les ateliers. Voilà, on va essayer de continuer à promouvoir cette passion.
D'accord, donc ce type d'intervention, alors comment ça fonctionne? C'est combien de temps? À quel type de public ça s'adresse? Quel âge en moyenne? Et comment on fait pour est-ce que tout le monde peut vous contacter à ce sujet? Est-ce que vous intervenez très facilement dans les écoles? Comment ça marche?
Alors oui, c'est je vais dire, on est dispo, on se rend dispo, on veut vraiment absolument c'est promouvoir cette passion. Aujourd'hui, nous avons passé une journée à Troyes, donc à l'archipel, à la bibliothèque de Meurchin, pour y accueillir deux classes. Donc on fait des petits groupes. Quel âge on peut commencer? À tout âge. Bien sûr, il faut après avoir une bonne élocution. Et puis, je ne sais plus si au niveau...
Il n'y a pas de limite d'âge maintenant.
Il n'y a pas de limite d'âge, non. D'accord.
Voilà. Donc, je crois que le plus jeune, ça doit être 12 ans actuellement, le plus jeune radioamateur.
D'accord. Et en termes de coût, est-ce que ça représente un coût pour les infrastructures qui vous reçoivent ou...
Ah bah, y a une petite cotisation à payer pour un radio club de généralement 15-20 euros. Après, il y a les licences de, qui est un, enfin, disons, un impôt, hein, on va dire, hein, tout simplement, 45 euros à payer à l'année, une redevance.
D'accord.
Et puis après, bah, il y a un investissement sur un poste, suivant les moyens, soit on achète un poste d'occasion, parce qu'après, bon, il y a tous les prix, hein, il y a des postes à 1000, il y a des postes à 10 000, enfin bref, c'est suivant la bourse de chacun, quoi, voilà.
Et d'accord. Avec les dégourdis, fabriquent leur antenne eux-mêmes, quoi, disons. Ouais. Hein. Bon, il y a les antennes commerciales qui coûtent quand
on
même...
On peut commencer avec un long fil, hein, un fil, et puis ça rayonne déjà bien, pas mal sur l'Europe, quoi.
Ouais, donc il y a possibilité pour quelqu'un qui se débrouille de pouvoir facilement pratiquer cette passion.
À faible coût, ouais.
Il y a signalé aussi la chasse au renard.
Oui, donc là que Vingle, on finalise bah, avec Radio Plus, de toute façon ça va être suivi avec la radio du collège Léon Blum. On finalise le projet de la chasse au renard avec une classe de 6ème 3 du collège et de la classe de CM2 de Monsieur Lejeune à Meurchin. Donc on fera une grande sortie à la base de loisirs de Vingle quand il fera dans de meilleures conditions, quand il fera beau et qu'ils seront... On les aura un petit peu formés sur le principe d'une antenne directive.
Et il y aura une journée aussi de transmission qu'on va inviter les gamins à poser des questions aux radioamateurs qu'on va contacter.
Donc là, on mettra une station HF dans l'enceinte de l'école et les enfants pourront poser des questions aux radioamateurs. Et comme c'est le centenaire de la guerre 14-18, on va créer un indicatif radioamateur thème 62 GG, Grande Guerre, et pour commémorer. Donc ça sera le 11 novembre à Meurchin, dans le centre-ville. On va activer une station radio depuis Meurchin pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre 14-18.
Très bien, d'accord. Donc si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, envoyez un mail à l'adresse suivante, donc alexis@radioplus.fr tout simplement, et je transmettrai les informations à ces messieurs. Je ferai la passerelle.
Je vous remercie.
En tous les cas, on vous remercie d'être venu aujourd'hui. On va devoir se quitter, malheureusement. Il est déjà 17h53. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour venir parler de cette exposition.
Merci de votre accueil, en tout cas.
Merci de votre accueil, c'était un plaisir.
Merci à vous. Et puis bon, Hélène, je te salue également. On va rendre l'antenne maintenant. On va terminer.